Comment faisiez-vous? Comme ils font tous. J'arrivais, je me jetais dans une chaise. Oh, que le temps est mauvais, que le pavé est fatigant. Je bavardais quelques nouvelles. Mademoiselle l'Enfer devrait faire une rôle de Vestale dans l'Opéra Nouveau. Mais elle est grosse pour la seconde fois. On ne sait qui la doublera. Mademoiselle Arnoux vient de quitter son petit comte. On dit qu'elle est en négociation avec Bertin. Le petit comte a pourtant trouvé la porcelaine de Monsieur de Montamy. Il y avait au dernier concert des amateurs une Italienne qui a chanté comme un ange. C'est un rare corps que ce Préville. Il faut le voir dans le Mercure galant. L'endroit de l'énigme est impayable. Cette pauvre Duménil ne sait plus ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. Bon. Alors, mademoiselle, prenez votre livre. Tandis que mademoiselle, qui ne se presse pas, cherche son livre qu'elle a égaré, qu'on appelle une femme de chambre, et qu'on la gronde, je continue. Oh, la Clairon est vraiment incompréhensible. On parle d'un mariage force au grenu. Ah, c'est celui de mademoiselle, ah, comment l'appelez-vous, une petite créature qu'il entretenait, à qui il a fait 2 ou 3 enfants, qui avait été entretenue par tant d'autres. Alors, ah bon, cela ne se peut, vous radotez. Mais je ne radote point. On dit même que la chose est faite. Ah, le bruit court que de Voltaire est mort, tant mieux. Et pourquoi tant mieux? Bah, c'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une 15aine auparavant. Que vous dirais-je encore? Je disais quelques polissonneries que je rapportais des maisons où j'avais été, car nous sommes tous grands colporteurs. Je faisais le fou, on m'écoutait, on riait, on s'écriait. Oh, il est toujours charmant! Cependant, le livre de mademoiselle était enfin retrouvé sous un fauteuil où il avait été traîné, mâchonné, déchiré par un jeune Dauguin ou par un petit chat. Elle se mettait à son clavecin. D'abord, il y faisait du bruit toute seule. Ensuite, je m'approchais après avoir fait à la mère un signe d'approbation. La mère, oh, cela ne va pas mal, on n'aurait qu'à vouloir, mais on ne veut pas. On aime mieux perdre son temps à jaser, à chiffonner, à courir, à je ne sais quoi. Vous n'êtes pas sitôt parti que le livre est fermé, pour ne le rouvrir qu'à votre retour. Aussi, vous ne la grondez jamais. Cependant, comme il fallait faire quelque chose, je lui prenais les mains que je lui plaçais autrement. Je me dépitais, je criais, « Sol, 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 mademoiselle, c'est un sol !» La mère. Oh, mademoiselle, est-ce que vous n'avez point d'oreille? Moi qui ne suis pas au clavecin et qui ne vois pas sur votre livre, je sens qu'il faut un sol. Vous donnez une peine infinie à monsieur. Oh, je ne conçois pas sa patience. Vous ne retenez rien de ce qu'il vous dit. Vous n'avancez point. Alors je rabattais un peu les coups et au chant de la tête je disais pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Cela pourrait aller mieux, si mademoiselle voulait, si elle étudiait un peu, mais cela ne va pas mal. La mère. Ah, à votre place, je la tiendrai 1 an sur la même pièce. Oh, pour cela, elle n'en sentira pas qu'elle ne soit au-dessus de toutes les difficultés. Et cela ne sera pas si long que madame le croit. La mère. Monsieur Rabeau, vous la flattez, vous êtes trop bon. Voilà de sa leçon la seule chose qu'elle retiendra, qu'elle saura bien me répéter dans l'occasion. L'heure se passait. Mon écolière me présentait le petit cachet avec la grâce du bras et la référence qu'elle avait apprise du maître à danser. Je le mettais dans ma poche pendant que la mère disait « Fort bien, mademoiselle, si j'avais été là, il vous applaudirait. » Je bavardais encore un moment par bienséance, je disparaissais ensuite, et voilà ce qu'on appelait alors une leçon d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est donc autre chose. Vertu Dieu, je le crois. J'arrive, je suis grave. Je me hâte d'ôter mon manchon, j'ouvre le clavecin, j'essaie les touches. Je suis toujours pressé. Si on me fait attendre un moment, je crie comme si l'on me volait un écu. Dans une heure d'ici, il faut que je sois là. Dans 2 heures, chez Madame la Duchesse, une telle. Or, je suis attendu à dîner chez une belle marquise, et au sortir de là, c'est un concert chez Monsieur le Baron de Bac, rue Neuve des Petits Champs. Et cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Ah, il est vrai. Alors, et pourquoi employer toutes ces petites villes ruses-là? Villes? Eh, pourquoi, s'il vous plaît? Elles sont d'usage dans mon état. Je ne m'avilis point en faisant comme tout le monde. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, et je serais bizarre et maladroit de ne pas m'y conformer. Vraiment, je sais bien que si vous allez m'appliquer à cela à certains principes généraux de je ne sais quelle morale qu'ils ont tous à la bouche et qu'aucun d'eux ne pratique, il se trouvera que ce qui est blanc sera noir et que ce qui est noir sera blanc. Mais, monsieur le philosophe, il y a une conscience générale, comme il y a une grammaire générale, et puis des exceptions dans chaque langue que vous appelez, je crois, vous autres savants, des... Ah, dis-moi donc, des... idiotismes. Tout juste. Eh bien, chaque État a ses exceptions à la conscience générale, auquel je donnerais volontiers le nom d'idiotisme de métier. J'entends, Fontenelle parle bien, écrit bien, quoique son style fourmille d'idiotisme français. Et le souverain, le ministre, le financier, le magistrat, le militaire, l'homme de lettres, l'avocat, le procureur, le commerçant, le banquier, l'artisan, le maître à chanter, le maître à danser, sont de fort honnêtes gens, quoique leur conduite écarte en plusieurs points de la conscience générale et soit remplie d'idiotismes moraux. Plus l'institution des choses est ancienne, plus il y a d'idiotisme, et plus les temps sont malheureux, plus les idiotismes se multiplient. Tant vaut l'homme, tant vaut le métier, et réciproquement, à la fin, tant vaut le métier, tant vaut l'homme. On fait donc valoir le métier tant qu'on peut. Ce que je conçois clairement à tout cet entortillage, c'est qu'il y a peu de métiers honnêtement exercés, ou peu d'honnêtes gens dans leur métier. Bon, il n'y en a point. Mais en revanche, il y a peu de fripons hors de leur boutique. Et tout irait assez bien sans un certain nombre de gens qu'on appelle assidus, exacts, remplissant rigoureusement leurs devoirs, stricts ou ce qui revient au même, toujours dans leur boutique et faisant leur métier depuis le matin jusqu'au soir et ne faisant que cela. Aussi sont-ils les seuls qui deviennent opulents et qui soient estimés à force d'idiotisme. C'est cela. Je vois que vous m'avez compris. Or donc, un idiotisme de presque tous les États, car il y en a de commun à tous les pays, à tous les temps, comme il y a des sottises communes, un idiotisme commun est de se procurer le plus de pratiques que l'on peut. Une sottise commune est de croire que le plus habile est celui qui en a le plus. Voilà 2 exceptions à la conscience générale auxquelles il faut se plier. C'est une espèce de crédit. Ce n'est rien en soi, mais cela vaut par l'opinion. On a dit que bonne renommée valait mieux que ceinture dorée. Cependant, qui a bonne renommée n'a pas ceinture dorée. Et je vois qu'aujourd'hui, qui a ceinture dorée ne manque guère de renommée. Il faut, tant qu'il est possible, avoir le renom et la ceinture. Et c'est mon objet lorsque je me fais valoir, parce que vous qualifiez d'adresse vile, d'indigneux petite ruse. Je donne ma leçon, et je la donne bien. Voilà la règle générale. Je fais croire que j'en ai plus à donner que la journée n'a d'heure. Voilà l'idiotisme. Et la leçon, vous la donnez bien. Ouais, pas mal, passablement. La base fondamentale du cher oncle a bien simplifié tout cela. Autrefois, je volais l'argent de mon écolier. Oui, je le volais, cela est sûr. Aujourd'hui, je le gagne, du moins comme les autres. Et le voliez-vous sans remords? Oh, sans remords! On dit que si un voleur vole l'autre, le diable s'en rit. Les parents regorgeaient d'une fortune acquise, Dieu sait comment. C'étaient des gens de cour, des financiers, de gros commerçants, des banquiers, des gens d'affaires. Je les aidais à restituer, moi, et une foule d'autres qu'ils employaient comme moi. Dans la nature, toutes les espèces se dévorent. Toutes les conditions se dévorent dans la société. Nous faisons justice les uns des autres sans que la loi s'en mêle. La Deschamps autrefois, aujourd'hui la Guimard, venge le prince du financier. Et c'est la marchande de mode, le bijoutier, le tapissier, le lingère, l'escroc, la femme de chambre, le cuisinier, le bourrelier qui venge le financier de la Deschamps. Au milieu de tout cela, il n'y a que l'imbécile ou l'oisif qui soit lésé, sans avoir avec ses personnes. C'est fort bien fait. D'où vous voyez que ces exceptions à la conscience générale ou ces idiotismes moraux dont on fait tant de bruit sous la dénomination de tour du bâton ne sont rien. Et qu'à tout, il n'y a que le coup d'œil qu'il faut avoir juste. J'admire le vôtre. Et puis la misère. La voix de la conscience et de l'honneur est bien faible lorsque les boyaux crient. Suffit que si je ne deviens jamais riche, il faudra bien que je restitue et que je suis bien résolu à restituer de toutes les manières possibles par la table, par le jeu, par le vin et par les femmes. Mais j'ai peur que vous ne deveniez jamais riche. Oh, moi, j'en ai le soupçon. Mais s'il en arrivait autrement, que feriez-vous? Je ferais comme tous les gueux revêtus. Je serais le plus insolent maroufle qu'on eût encore vu. C'est alors que je me rappellerais tout ce qu'ils m'ont fait souffrir, et je leur rendrais bien les avanies qu'ils m'ont faites. J'aime à commander, et je commanderai. J'aime qu'on me loue, et l'on me louera. J'aurai à mes gages toute la troupe villemaurienne, et je leur dirai, comme on me l'a dit, « Allons, faquin, qu'on m'amuse, et l'on m'amusera. Qu'on me déchire les honnêtes gens, et on les déchirera, si l'on en trouve encore. Et puis nous aurons des filles, nous nous tutoierons, quand nous serons ivres, nous nous enivrerons. » Nous ferons des comptes, nous aurons toutes sortes de travers et de vices, cela sera délicieux. Nous prouverons que de Voltaire est sans génie, que Buffon, toujours guindé sur des échasses, n'est qu'un déclamateur empoulé, que Montesquieu n'est qu'un bel esprit. Nous relèguerons d'Alembert dans ses mathématiques. Nous en donnons sur son dos et ventre à tous ces petits catons, comme vous, qui nous méprisent par envie, et dont la modestie est le manteau de l'orgueil, et dont la sobriété la loi du besoin. Et de la musique, c'est alors que nous en ferons. Au digne emploi que vous feriez de la muse-richesse, je vois combien c'est grand dommage que vous soyez gueux. Vous vivriez là d'une manière bien honorable pour l'espèce humaine, bien utile à vos concitoyens, bien glorieuse pour vous. Mais je crois que vous vous moquez de moi, monsieur le philosophe. Vous ne savez pas à qui vous vous jouez. Vous ne vous doutez pas que dans ce moment, je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour. Nos opulents, dans tous les états, ou se sont dit à eux-mêmes, ou ne se sont pas dit, les mêmes choses que je vous ai confiées. Mais le fait est que la vie que je mènerai à leur place est exactement la leur. Voilà où vous en êtes, vous autres. Vous croyez que le même bonheur est fait pour tous. Quelle étrange vision! La vôtre suppose un certain tour d'esprit romanesque que nous n'avons pas. Une âme singulière, un goût particulier. Vous décorez cette bizarrerie du nom de vertu. Vous l'appelez philosophie. Mais la vertu, la philosophie, sont-elles faites pour tout le monde? En a qui peut, en conserve qui peut. Imaginez l'univers sage et philosophe. Convenez qu'il serait diablement triste. Tenez, vive la philosophie, vive la sagesse de Salomon. Boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets, excepté cela. Le reste n'est que vanité. Quoi? Défendre sa patrie? Vanité! Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Servir ses amis? Vanité! Est-ce qu'on a des amis? Quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats? Regardez-y bien, et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus. La reconnaissance est un fardeau, et tout fardeau est fait pour être secoué. Alors avoir un état dans la société et en remplir les devoirs, vanité! Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Remplir ses devoirs, à quoi cela mène-t-il? À la jalousie, au trouble, à la persécution? Est-ce ainsi qu'on avance? Faire sa cour, morbleu, faire sa cour, voir les grands, étudier leurs goûts, se prêter à leurs fantaisies, servir leurs vices, approuver leurs injustices, voilà le secret. Alors, veiller à l'éducation de ses enfants. Vanité, c'est l'affaire d'un précepteur. Mais si ce précepteur, pénétré de vos principes, néglige ses devoirs, qui est-ce qui en sera châtié? Ma foi, ce ne sera pas moi, mais peut-être un jour, le mari de ma fille ou la femme de mon fils. Mais si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche et les vices, oh, cela est de leur état. Mais s'ils se déshonorent, quoi qu'on fasse, on ne peut pas se déshonorer quand on est riche. Et s'ils se ruinent, tant pis pour eux. Je vois que si vous vous dispensez de veiller à la conduite de votre femme, de vos enfants, de vos domestiques, vous pourriez aisément négliger vos affaires. Pardonnez-moi, il est quelquefois difficile de trouver de l'argent, et il est prudent de s'y prendre de loin. Vous donnerez peu de soins à votre femme? Aucun, s'il vous plaît. Le meilleur procédé, je crois qu'on puisse avoir avec sa chère Boîtier, c'est de faire ce qui lui convient. À votre avis, la société ne serait-elle pas fort amusante si chacun y était à sa chose? Pourquoi pas? La soirée n'est jamais plus belle pour moi que quand je suis content de ma matinée. Et pour moi aussi, ce qui rend les gens du monde si délicats sur leurs amusements, c'est leur profonde oisiveté. Oh, ne croyez pas cela! Il s'agit de beaucoup! Comme ils ne se lassent jamais, ils ne se délassent jamais. Oh, ne croyez pas cela! Ils sont sans cesse excédés. Le plaisir est toujours une affaire pour eux et jamais un besoin. Tant mieux! Le besoin est toujours une peine. Ils usent tout. Leur âme s'hébète. L'ennui s'en empare. Celui qui leur ôterait la vie au milieu de leur abondance accablante les servirait. C'est qu'ils ne connaissent du bonheur que la partie qui s'émousse le plus vite. Je ne méprise pas les plaisirs des sens. J'ai un palais aussi, et il est flatté d'un mets délicat ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux, et j'aime avoir une jolie femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté et la rondeur de sa gorge, à presser ses lèvres des miennes, à puiser la volupté dans ses regards et à en expirer entre ses bras. Quelquefois, avec mes amis, une partie de débauche, même un peu tumultueuse, ne me déplaît pas. Mais je ne vous dissimulerai pas, il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux, d'avoir terminé une affaire épineuse, donné un conseil salutaire, fait une lecture agréable, une promenade avec un homme ou une femme chère à mon cœur, passé quelques heures instructives avec mes enfants, écrit une bonne page, rempli les devoirs de mon état, dit à celle que j'aime quelque chose de tendre et douce qui amène ses bras autour de mon col. Je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède. C'est un sublime ouvrage que Mahomet. J'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des Calas. Un homme de ma connaissance s'était réfugié à Carthagène. C'était un cadet de famille dans un pays où la coutume transfère tout le bien aux aînés. Là, il apprend que son aîné, enfant gâté, après avoir dépouillé son père et sa mère, trop facile de tout ce qu'il possédait, les avait expulsés de leur château et que les bons vieillards languissaient indigents dans une petite ville de la province. Que fait alors ce cadet qui, traité durement par ses parents, était allé tenter la fortune au loin? Il leur envoie des secours. Il se hâte d'arranger ses affaires. Il revient opulent. Il ramène son père et sa mère dans leur domicile. Il marie ses sœurs. Ah, mon cher Rameau, cet homme regardait cet intervalle comme le plus heureux de sa vie. C'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait, et moi, je sens, en vous faisant ce récit, mon cœur se troubler de joie et le plaisir me couper la parole. Oh, vous êtes des êtres bien singuliers. Vous êtes des êtres bien à plaindre. Si vous n'imaginez pas qu'on s'est élevé au-dessus du sort et qu'il est impossible d'être malheureux à l'abri de belles actions, telle que celle-ci. Voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurai de la peine à me familiariser, car on la rencontre rarement. Mais à votre compte, il faudrait donc être d'honnêtes gens pour être heureux, assurément. Cependant, je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux. Et une infinité de gens qui sont heureux, sans être honnêtes. Il vous semble. Et n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment que je ne sais où aller souper ce soir? Non, c'est pour n'en avoir pas toujours eu. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée. Et de faire ce que vous ne désapprouvez pas au simple, ce qui me répugne un peu au figuré, c'est mon avis. Indépendamment de cette métaphore qui me déplaît dans ce moment, et qui ne me déplaira pas dans un autre. Quelle singularité! Il n'y a rien de singulier à cela. Je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité. Ah, vous riez. Oui, votre dignité me fait rire. Chacun a la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion et non à l'ordre d'autrui. Faut-il qu'on puisse me dire ramper, que je sois obligé de ramper? C'est l'allure du verre. C'est mon allure. Nous la suivons l'un et l'autre. Quand on nous laisse aller. Mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue. On m'a marché sur la queue, et je me redresserai. Et puis vous n'avez pas idée de la pétaudière dont il s'agit. Imaginez un mélancolique et maussade personnage, dévoré de vapeur, enveloppé dans deux ou trois tours d'un robe de chambre, qui se déplaît à lui-même, à qui tout déplaît. qu'on fait à peine sourire en se disloquant le corps et l'esprit en 100 manières diverses, qui considèrent froidement les grimaces plaisantes de mon visage et celles de mon jugement, qui sont plus plaisantes encore, car entre nous, ce Père Noël, ce vilain bénédictin, si renommé pour les grimaces, malgré ses succès à la cour, n'est, sans me vanter ni lui non plus, à comparaison de moi, qu'un polichinelle de bois. J'ai beau me tourmenter pour atteindre au sublime des petites maisons, rien n'y fait. Rira-t-il? Ne rira-t-il pas? Voilà ce que je suis forcé de me dire au milieu de mes contorsions. Et vous pouvez juger combien cette incertitude nuit au talent. Mon hypochondre, la tête renfoncée dans un bonnet de nuit qui lui couvre les yeux, a l'air d'une pagode immobile à laquelle on aurait attaché un fil au menton d'où il descendrait jusque sous son fauteuil. On attend que le fil se tire, et il ne se tire point. S'il arrive que la mâchoire s'entr'ouvre, c'est pour articuler un mot désolant, un mot qui vous apprend que vous n'avez point été aperçu et que toutes vos singeries sont perdues. Ce mot est la réponse à une question que vous lui aurez faite il y a 4 jours. Ce mot dit, le ressort mastoïde se détend, et la mâchoire se referme. Puis il se mit à contrefaire son homme. Il s'était placé dans une chaise, la tête fixe, le chapeau jusque sur ses paupières, les yeux à demi clos, les bras pendants, remuant sa mâchoire comme un automate et disant « Oui, vous avez raison, mademoiselle, il faut mettre de la finesse, là. C'est que cela décide toujours et sans appel, le soir, le matin, à la toilette, à dîner, au café, au jeu, au théâtre, à souper, au lit, et Dieu me le pardonne, je crois entre les bras de sa maîtresse. Je ne suis pas à portée d'entendre ces dernières décisions-ci, mais je suis diablement las des autres. Triste, obscur et tranché comme le destin, tel est notre patron. Vis-à-vis, c'est une bégueule qui joue l'importance, à qui l'on se résoudrait à dire qu'elle est jolie, parce qu'elle l'est encore. Quoiqu'elle ait sur le visage quelques gales par-ci par-là, et qu'elle court après le volume de Madame Bouvillon. J'aime les chairs quand elles sont belles, mais aussi trop et trop. Et le mouvement est si essentiel à la matière. Item, elle est plus méchante, plus fière et plus bête qu'une oie. Item, elle veut avoir de l'esprit. Item, il faut lui persuader qu'on lui en croit comme à personne. Item, cela ne sert à rien, et cela décide aussi. Item, il faut applaudir à ses décisions, des pieds et des mains, sauter d'aise, se transir d'admiration, que cela est beau, délicat, bien dit, finement vu, singulièrement senti. Mais où les femmes prennent-elles cela? Sans étude, par la seule force de l'instinct, par la seule lumière naturelle, mais cela tient du prodige. Et puis qu'on vienne nous dire que l'expérience, l'étude, la réflexion, l'éducation y font quelque chose, et autres pareilles sottises, et pleurer de joie. 10 fois dans la journée, se courber, un genou fléchi en devant, l'autre jambe tirée en arrière, les bras étendus vers la déesse, chercher son désir dans ses yeux, rester suspendu à sa lèvre, attendre son ordre et partir comme un éclair. Qui est-ce qui peut s'assujettir à un rôle pareil, si ce n'est le misérable qui trouve là 2 ou 3 fois la semaine de quoi calmer la tribulation de ses intestins? Que penser des autres, tels que Palissot, le Fréron, les Poincinet, les Baculard, qui ont quelque chose et dont les bassesses ne peuvent s'excuser par le borborygme d'un estomac qui souffre? Oh, je ne vous aurais jamais cru si difficile. Je ne le suis pas. Au commencement, je voyais faire les autres, et je faisais comme eux, même un peu mieux. Parce que je suis plus franchement impudent, meilleur comédien, plus affamé, fourni de meilleurs poumons. Je descends apparemment en droite ligne du fameux Stentor. Et pour me donner une juste idée de la force de ce viscère, il se mit à tousser d'une violence, à ébranler les vitres du café et à suspendre l'attention des joueurs d'échecs. Mais à quoi bon ce talent? Vous ne le devinez pas? Non, je suis un peu borné. Supposez la dispute engagée et la victoire incertaine. Je me lève et, déployant mon tonnerre, je dis « Cela est, comme mademoiselle l'assure, c'est là ce qui s'appelle juger. Je le donne en sang à tous nos beaux esprits. L'expression est de génie, mais il ne faut pas toujours approuver de la même manière. On serait monotone, on aurait l'air faux, on deviendrait insipide. On ne se sauve de là que par du jugement, de la fécondité. » Il faut savoir préparer et placer ses tons majeurs et péremptoires, saisir l'occasion et le moment. Lors, par exemple, qu'il y a partage entre les sentiments, que la dispute s'est élevée à son dernier degré de violence, qu'on ne s'entend plus, que tous parlent à la fois, il faut être placé à l'écart, dans l'ombre de l'appartement le plus éloigné du champ de bataille, avoir préparé son explosion par un long silence et tomber subitement comme une comminge au milieu des contendants. Personne n'a eu cet art comme moi. Mais où je suis surprenant, c'est dans l'opposé. J'ai des petits tons que j'accompagne d'un sourire, une variété infinie de mines approbatives. Là, le nez, la bouche, le front, les yeux entrent en jeu. J'ai une souplesse de rein, une manière de contourner l'épine du dos, de hausser ou de baisser les épaules, d'étendre les doigts, d'incliner la tête, de fermer les yeux et d'être stupéfait, comme si j'avais entendu descendre du ciel une voix angélique et divine. C'est là ce qui flatte. Je ne sais si vous saisissez bien toute l'énergie de cette dernière attitude-là. Oh, je ne l'ai point inventée, mais personne ne m'a surpassé dans l'exécution. Voyez, voyez, il est vrai que cela est unique. Croyez-vous qu'il y ait cervelle de femme un peu vaine qui tienne à cela? Non. Il faut convenir que vous avez porté le talent de faire des fous, de s'avilir aussi loin qu'il est possible. Ils auront beau faire tout ce temps qu'ils sont, ils n'en viendront jamais là. Le meilleur d'entre eux, Palissot par exemple, ne sera jamais qu'un bon écolier. Mais si ce rôle amuse d'abord et si l'on goûte quelque plaisir à se moquer en dedans, de la bêtise de ce qu'on enivre, à la longue, cela ne pique plus. Et puis, après un certain nombre de découvertes, on est forcé de se répéter. L'esprit et l'art ont leurs limites. Il n'y a que Dieu ou quelques génies rares pour qui la carrière s'étend à mesure qu'ils y avancent. Bourret en est un, peut-être. Il y a de celui-ci des traits qui m'en donne à moi, oui, à moi-même, la plus sublime idée. Le petit chien, le livre de la félicité, les flambeaux sur la route de Versailles sont de ces choses qui me confondent et m'humilient. Je serais capable de dégoûter du métier. Mais que voulez-vous dire avec votre petit chien? D'où venez-vous donc? Quoi, sérieusement? Vous ignorez comment cet homme rare s'y prit pour détacher de lui et attacher au garde des Sceaux un petit chien qui plaisait à celui-ci? Je l'ignore, je le confesse. Tant mieux, c'est une des plus belles choses qu'on ait imaginées. Toute l'Europe en a été émerveillée. Il n'y a pas un courtisan dont elle n'ait excité l'envie. Vous qui ne manquez pas de sagacité, voyons comment vous y seriez pris à sa place. Songez que Bourret était aimé de son chien. Songez que le vêtement bizarre du ministre effrayait le petit animal. Songez qu'il n'avait que 8 jours pour vaincre les difficultés. Ah, il faut connaître toutes les conditions du problème pour bien sentir le mérite de sa solution. Eh bien, il faut que je vous avoue que dans ce genre, les choses les plus faciles m'embarrasseraient. Écoutez, me dit-il en me frappant un petit coup sur l'épaule, car il est familier. Écoutez et admirez. Il se fait faire un masque qui ressemble au garde des Sceaux. Il emprunte d'un valet de chambre la volumineuse Simard. Il se couvre le visage du masque. Il endosse la Simard. Il appelle son chien. Il le caresse. Il lui donne la gimbalette. Puis, tout à coup, changeant de décoration, ce n'est plus le garde des Sceaux. C'est Bourret qui appelle son chien et qui le fouette. En moins de 2 ou 3 jours de cet exercice continu du matin au soir, le chien sait fuir Bourret, le fermier général, et courir à Bourret, le garde des Sceaux. Mais je suis trop bon, vous êtes un profane qui ne méritait pas d'être instruit des miracles qui s'opèrent à côté de vous. Malgré cela, je vous prie, le livre, les flambeaux. Non, non, adressez-vous aux pavés qui vous diront ces choses-là, et profitez de la circonstance qui nous a rapprochés pour apprendre des choses que personne ne sait que moi. Vous avez raison. Empruntez la robe et la perruque. Ah, j'avais oublié la perruque du garde des Sceaux. Se faire un masque qui lui ressemble. Le masque, surtout, me tourne la tête. Aussi cet homme jouit-il de la plus haute considération. Aussi possède-t-il des millions. Il y a des croix de Saint-Louis qui n'ont pas de pain. Aussi pourquoi courir après la croix, au hasard de se faire échiner, et ne pas se tourner vers un état sans péril qui ne manque jamais sa récompense. Voilà ce qui s'appelle aller au grand. Ces modèles-là sont décourageants. On a pitié de soi et l'on s'ennuie. Le masque, oh le masque! Je donnerais un de mes doigts pour avoir trouvé le masque. Mais avec cet enthousiasme pour les belles choses et cette fertilité de génie que vous possédez, est-ce que vous n'avez rien inventé? Pardonnez-moi. Par exemple, l'attitude admirative du dos dont je vous ai parlé. Je la regarde comme mienne, quoiqu'elle puisse peut-être m'être contestée par des envieux. Je crois bien qu'on l'a employée auparavant, mais qu'est-ce qui a senti combien elle était commode pour rire en dessous de l'impertinent qu'on admirait. J'ai plus de 100 façons d'entamer la séduction d'une jeune fille à côté de sa mère, sans que celle-ci s'en aperçoive, et même de la rendre complice. À peine entrais-je dans la carrière que je dédaignais toutes les manières vulgaires de glisser un billet doux. J'ai 10 moyens de me le faire arracher, et parmi ces moyens, j'ose me flatter qu'il y en a de nouveaux. Je possède surtout le talent d'encourager un jeune homme timide. J'en ai fait réussir qui n'avait ni esprit ni figure. Si cela était écrit, je crois qu'on m'accorderait quelque génie. Vous ferez un honneur singulier? Je n'en doute pas. À votre place, mais à votre place, je jetterais ces choses-là sur le papier. Cela serait dommage qu'elles se perdissent. Il est vrai, mais vous ne soupçonnez pas combien je fais peu de cas de la méthode et des préceptes. Celui qui a besoin d'un protocole n'ira jamais loin. Les génies lisent peu, pratiquent beaucoup, et se font d'eux-mêmes. Voyez, César, Turenne, Vauban, la marquise de Tencin, son frère le cardinal et le secrétaire de celui-ci, l'abbé Trublet, et Bourret. Qui est-ce qui a donné des leçons à Bourret? Personne. C'est la nature qui forme ces hommes rares-là. Croyez-vous que l'histoire du chien et du masque soit écrite quelque part? Mais à part vos heures perdues, lorsque l'angoisse de votre estomac vide ou la fatigue de votre estomac surchargé éloigne le sommeil, oh, j'y penserai. Il vaut mieux écrire de grandes choses que d'en exécuter de petites. Alors l'âme s'élève, l'imagination s'échauffe, s'enflamme et s'étend. Au lieu qu'elle se rétrécit à s'étonner auprès de la petite husse des applaudissements que ce sot public s'obstine à prodiguer à cette minaudière de Dangerville qui joue si platement, qui marche presque courbée en deux sur la scène, qui a l'affectation de regarder sans cesse dans les yeux de celui à qui elle parle et de jouer en dessous, et qui prend elle-même ses grimaces pour de la finesse, son petit trotté pour de la grâce. À cet emphatique clairon, qui est plus maigre, plus apprêté, plus étudié, plus empesé qu'on ne saurait dire. Cet imbécile par terre les claque à tout rompre et ne s'aperçoit pas que nous sommes un peloton d'agrément. Il est vrai que le peloton grossit un peu, mais qu'importe que nous avons la plus belle peau, les plus beaux yeux, les plus jolis becs, peu d'entrailles à la vérité, une démarche qui n'est pas légère, mais qui n'est pas non plus aussi gauche qu'on le dit. Pour le sentiment, en revanche, il n'y en a aucune à qui nous ne damions le pion. Mais comment dites-vous tout cela? Est-ce ironie ou vérité? Oh, le mal est que ce diable de sentiment est tout en dedans, et qu'il n'en transpire pas une lueur au dehors. Mais moi, à qui vous parle, je sais et je sais bien qu'elle en a. Si ce n'est pas cela précisément, c'est quelque chose comme cela. Il faut voir, quand l'humeur nous prend, comme nous traitons les valets, comme les femmes de chambre sont souffletées, comme nous menons à grands coups de pied les parties casuelles, pour peu qu'elles s'écartent du respect qui nous est dû. C'est un petit diable, vous dis-je, tout plein de sentiments et de dignité. Oh, ça, vous ne savez où vous en êtes, n'est-ce pas? J'avoue que je ne saurais démêler si c'est de bonne foi ou méchamment que vous parlez. Je suis un bon homme, ayez la bonté d'en user avec moi plus rondement et de laisser là votre art. Cela, c'est ce que nous débitons à la petite husse de la Dangeville et de la Clairon, mais par-ci, par-là, de quelques mots qui vous donnassent l'éveil. Je consens que vous me preniez pour un vaurien, mais non pour un sot. Il n'y aurait qu'un sot ou un homme perdu d'amour qui pût dire sérieusement tant d'impertinence. Mais comment se résout-on à les dire? Cela ne se fait pas tout d'un coup, mais petit à petit on y vient. Ingeni largitor venter. Il faut être pressé d'une cruelle fin. Cela se peut. Cependant, quelque forte qu'elle vous paraisse, croyez que ceux à qui elle s'adresse sont plutôt accoutumés à les entendre que nous à les hasarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ait le courage d'être de votre avis? Qu'appelez-vous quelqu'un? C'est le sentiment et le langage de toute la société. Mais ceux d'entre vous qui ne sont pas de grands vauriens doivent être de grands sots. Des sots, là? Ah, je vous jure qu'il n'y en a qu'un. C'est celui qui nous fête pour lui en imposer. Mais comment s'en laisse-t-on si grossièrement imposer? Car enfin, la supériorité des talents de la Dangeville et de la Clairon est décidée. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte. et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Et puis, nous avons l'air si pénétré, si vrai. Il faut cependant que vous ayez péché une fois contre les principes de l'art et qu'il vous soit échappé par mégarde quelques-unes de ces vérités amères qui blessent. Car en dépit du rôle misérable, abject, vil, abominable que vous faites, je crois qu'au fond, vous avez l'âme délicate. Oh, moi, point du tout. Que le diable m'emporte si je sais au fond ce que je suis. En général, j'ai l'esprit rond comme une boule et le caractère franc comme l'osier. Jamais faux, pour peu que j'aie intérêt d'être vrai. Jamais vrai, pour peu que j'aie intérêt d'être faux. Je dis les choses comme elles me viennent, sensées, tant mieux, impertinentes, on n'y prend pas garde. J'use en plein de mon franc-parler. Je n'ai pensé de ma vie ni avant que de dire, ni en disant, ni après avoir dit. Aussi, je n'offense personne. Cela vous est pourtant arrivé avec les honnêtes gens chez qui vous viviez et qui avaient pour vous tant de bonté. Que voulez-vous? C'est un malheur, un mauvais moment, comme il y en a dans la vie. Point de félicité continue. J'étais trop bien, cela ne pouvait durer. Nous avons, comme vous savez, la compagnie la plus nombreuse et la mieux choisie. C'est une école d'humanité, le renouvellement de l'antique hospitalité. Tous les poètes qui tombent, nous les ramassons. Nous eûmes Palissot après Sazarat, Brett après le faux généreux. Tous les musiciens décriés, tous les auteurs qu'on ne lit point, toutes les actrices sifflées, tous les acteurs hués, un tas de pauvres honteux, plats parasites à la tête desquels j'ai l'honneur d'être, brave chef d'une troupe timide. C'est moi qui les exhorte à manger la première fois qu'ils viennent. C'est moi qui demande à boire pour eux. Ils tiennent si peu de place. Quelques jeunes gens déguenillés qui ne savent vous donner de la tête, mais qui ont de la figure. D'autres scélérats qui cajolent le patron et qui l'endorment afin de glaner après lui sur la patronne. Nous paraissons gais, mais au fond, nous avons tous de l'humeur et grand appétit. Des loups ne sont pas plus affamés, des tigres ne sont pas plus cruels. Nous dévorons comme des loups lorsque la terre a été longtemps couverte de neige. Nous déchirons comme des tigres tout ce qui réussit. Quelquefois, les cohues bertins, Monsauge et Villemaurien se réunissent. C'est alors qu'il se fait un beau bruit dans la ménagerie. Jamais on ne vit ensemble tant de bêtes tristes, acariâtres, malfaisantes et courroucées. On n'entend que les noms de Buffon, de Duclos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de D'Alembert, de Diderot, et Dieu sait de quelles épithètes ils sont accompagnés. Nul n'aura de l'esprit s'il n'est aussi sot que nous. C'est là que le plan de la comédie des philosophes a été conçu. La scène du colporteur, c'est moi qui l'ai fournie, d'après la théologie en quenouille. Vous n'êtes pas épargné là, plus qu'un autre. Tant mieux, peut-être me fait-on plus d'honneur que je n'en mérite. Je serais humilié si ceux qui disent du mal de tant d'habiles et honnêtes gens s'avisaient de dire du bien de moi. Nous sommes beaucoup, et il faut que chacun paye son écot. Après le sacrifice des grands animaux, nous immolons les autres. Insulter la science et la vertu pour vivre, voilà du pain bien cher. Je vous l'ai dit déjà, nous sommes sans conséquence. Nous injurions tout le monde et nous n'affligeons personne. Nous avons quelquefois le pesant abbé d'Olivet, le gros abbé Leblanc, l'hypocrite batteux. Mais le gros abbé n'est méchant qu'avant dîner. Son café pris, il se jette dans un fauteuil, les pieds appuyés contre la tablette de la cheminée, et s'endort comme un vieux perroquet sur son bâton. Si le vacarme devient violent, il bâille, il étend ses bras, il frotte ses yeux et dit « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Il s'agit de savoir si Piron a plus d'esprit que de Voltaire. Ah, entendons-nous, c'est de l'esprit que vous dites « Oh, il ne s'agit pas de goût, car du goût, votre Piron ne s'en doute pas. » Ne s'en doute pas, non. Et puis nous voilà embarqués dans une dissertation sur le goût. Alors le patron fait signe de la main qu'on l'écoute, car c'est surtout du goût qu'il se pique. Le goût, dit-il, le goût est une chose. Ma foi, je ne sais quelle chose il disait que c'était, ni lui non plus. Nous avons quelquefois l'ami Rombet. Il nous régale de ses contes cyniques, des miracles des commissionnaires dont il a été le témoin oculaire, et de quelques chants de son poème sur un sujet qu'il connaît à fond. Je hais ses vers, mais j'aime à l'entendre réciter. Il a l'air d'un énergumène. Tous s'écrient autour de lui. Voilà ce qu'on appelle un poète. Entre nous, cette poésie-là n'est qu'un charivari de toutes sortes de bruits confus, le ramage barbare des habitants de la tour de Babel. Il nous vient aussi un certain niais, qui a l'air plat et bête, mais qui a de l'esprit comme un démon, et qui est plus malin qu'un vieux singe. C'est une de ces figures qui appellent la plaisanterie les nasardes, et que Dieu fit pour la correction des gens qui jugent à la mine, et à qui leur miroir aurait dû apprendre qu'il est aussi aisé d'être un homme d'esprit et d'avoir l'air d'un sot que de cacher un sot sous une physionomie spirituelle. C'est une lâcheté bien commune que celle d'immoler un bon homme à l'amusement des autres. On ne manque jamais de s'adresser à celui-ci. C'est un piège que nous tendons aux nouveaux venus. Et je n'en ai presque pas vu un seul qui n'y donna. J'étais quelquefois surpris de la justesse des observations de ce fou sur les hommes et sur les caractères. Et je le lui témoignais. « C'est, me répondit-il, qu'on tire parti de la mauvaise compagnie, comme du libertinage. On est dédommagé de la perte de son innocence par celle de ses préjugés. Dans la société des méchants, où le vice se montre à masque levé, on apprend à les connaître. Et puis, j'ai un peu lu. Qu'avez-vous lu? Oh, j'ai lu et je lis et relis sans cesse Théophraste, La Bruyère et Molière. Ce sont d'excellents livres. Oh, ils sont bien meilleurs qu'on ne pense. Mais qui est-ce qui sait les lire? Tout le monde, selon la mesure de son esprit. Presque personne. Pourriez-vous me dire ce qu'on y cherche? L'amusement et l'instruction. Mais quelle instruction? Car c'est là le point. La connaissance de ses devoirs, l'amour de la vertu, la haine du vice. Moi, j'y recueille tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas dire. Ainsi, quand je lis l'avare, je me dis « Sois avare si tu veux, mais garde-toi de parler comme l'avare. » Quand je lis le Tartuffe, je me dis « Sois hypocrite si tu veux, mais ne parle pas comme l'hypocrite. » Garde des vices qui te sont utiles. Mais n'en est ni le ton ni les apparences qui te rendraient ridicule. Pour se garantir de ce ton et de ces apparences, il faut les connaître. Or, ces auteurs en ont fait des peintures excellentes. Je suis moi et je reste ce que je suis. mais j'agis et je parle comme il convient. Je ne suis pas de ces gens qui méprisent les moralistes. Il y a beaucoup à profiter, surtout en ceux qui ont mis la morale en action. Le vice ne blesse les hommes que par intervalle. Les caractères apparents du vice les blessent du matin au soir. Peut-être vaudrait-il mieux être un insolent que d'en avoir la physionomie. L'insolent de caractère n'insulte que de temps en temps. L'insolent de physionomie insulte toujours. Au reste, n'allez pas imaginer que je sois le seul lecteur de mon espèce. Je n'ai d'autre mérite ici que d'avoir fait par système, par justesse d'esprit, par une vue raisonnable et vraie, ce que la plupart des autres font par instinct. De là vient que leur lecture ne les rende pas meilleurs que moi, mais qu'ils restent ridicules en dépit d'eux, au lieu que je ne le suis que quand je le veux, et que je les laisse alors loin derrière moi. Car le même art qui m'apprend à me sauver du ridicule en certaines occasions m'apprend aussi dans d'autres à l'attraper supérieurement. Je me rappelle alors tout ce que les autres ont dit, tout ce que j'ai lu, et j'y ajoute tout ce qui sort de mon fond, qui est en ce genre d'une fécondité surprenante. Vous avez bien fait de me révéler ces mystères, sans quoi je vous aurais cru en contradiction. Je n'y suis point, car pour une fois où il faut éviter le ridicule, heureusement, il y en a 100 où il faut s'en donner. Il n'y a pas de meilleur rôle auprès des grands que celui de fou. Longtemps, il y a eu le fou du roi en titre. En aucun, il y a eu en titre le sage du roi. Moi, je suis le fou de Bertin et de beaucoup d'autres, le vôtre, peut-être dans ce moment, ou peut-être vous, le mien. Celui qui serait sage n'aurait point de fou. Celui donc qui a un fou n'est pas sage. Et s'il n'est pas sage, il est fou et peut-être fut-il roi, le fou de son fou. Au reste, souvenez-vous que dans un sujet aussi variable que les mœurs, il n'y a d'absolument, d'essentiellement, de généralement vrai ou faux, sinon qu'il faut être ce que l'intérêt veut qu'on soit. Bon ou mauvais, sage ou fou, décent ou ridicule, honnête ou vicieux. Si par hasard la vertu avait conduit à la fortune, ou j'aurais été vertueux, ou j'aurais simulé la vertu comme un autre. On m'a voulu ridicule et je me le suis fait. Pour vicieux, nature seule en avait fait les frais. Quand je dis vicieux, c'est pour parler votre langue, car si nous venions à nous expliquer, il pourrait arriver que vous appelassiez vice ce que j'appelle vertu, et vertu ce que j'appelle vice. Nous avons aussi les auteurs de l'opéra comique, leurs acteurs et leurs actrices, et plus souvent leurs entrepreneurs, Corby, Moët, tout genre de ressources et d'un mérite supérieur. Et j'oubliais les grands critiques de la littérature, l'avant-coureur, les petites affiches, l'année littéraire, l'observateur littéraire, le censeur hebdomadaire, toute la clique des feuillistes. L'année littéraire, l'observateur littéraire, cela ne se peut, ils se détestent. Il est vrai, mais tous ces gueux se réconcilient à la gamelle. Ce maudit observateur littéraire, que le diable l'eût emporté, lui et ses feuilles, c'est ce chien de petit prêtre avare, puant et usurier, qui est la cause de mon désastre. Il parut sur notre horizon hier pour la première fois. Il arriva à l'heure qui nous chasse tous de nos repères, l'heure du dîner. Quand il fait mauvais temps, heureux celui d'entre nous qui a la pièce de 24 sols dans sa poche. Tel s'est moqué de son confrère qui était arrivé le matin, crotté jusqu'à l'échine et mouillé jusqu'aux os, qui, le soir, rentre chez lui dans le même état. Il y en eut un, je ne sais plus lequel, qui eut, il y a quelques mois, un démêlé violent avec le Savoyard qui s'est établi à notre porte. Ils étaient en compte courant. Le créancier voulait que son débiteur se liquidât et celui-ci n'était pas en fond. On sert, on fait les honneurs de la table à l'abbé, on le place au bout. J'entre, je l'aperçois. « Comment, l'abbé, lui dis-je, vous présidez ? Voilà qui est fort bien pour aujourd'hui. Mais demain, vous descendrez, s'il vous plaît, d'une assiette. Après, demain, d'une autre assiette, et ainsi, d'assiette en assiette, soit à droite, soit à gauche, jusqu'à ce que, de la place que j'ai occupée une fois avant vous, Fréron, une fois après moi, Dora, une fois après Fréron, Palissot, une fois après Dora, vous deveniez stationnaire à côté de moi. Pauvre plat bougre comme vous, qui siedo sempre, comme un maestoso calzo frado e coglioni. » L'abbé, qui est bon diable, et qui prend tout bien, se mit à rire. Mademoiselle, pénétrée de la vérité de mon observation, et de la justesse de ma comparaison, se mit à rire. Tous ceux qui siégeaient à droite et à gauche de l'abbé, qu'il avait reculé d'un cran, se mirent à rire. Tout le monde rit, excepté monsieur, qui se fâche et me tient des propos qui n'auraient rien signifié si nous avions été seuls. « Rameau, vous êtes un impertinent !»« Oh, je le sais bien, et c'est à cette condition que vous m'avez reçu. » Un faquin, comme un autre, un gueux. Est-ce que je serai ici sans cela? Je vous ferai chasser. Après dîner, je m'en irai de moi-même. Je vous le conseille. On dîna. Je n'en perdis pas un coup de dent. Après avoir bien mangé, bu largement, car après tout, il n'en aurait été ni plus ni moins, Monsieur Gloucester est un personnage contre lequel je n'ai jamais boudé. Je pris mon parti et je me disposais à m'en aller. J'avais engagé ma parole en présence de tant de monde qu'il fallait bien la tenir. Je fus un temps considérable à rôder dans l'appartement, cherchant ma canne et mon chapeau, où ils n'étaient pas, et comptant toujours que le patron se répandrait dans un nouveau torrent d'injures, que quelqu'un s'interposerait, que nous finirions par nous raccommoder, à force de nous fâcher. Je tournais, car moi, je n'avais rien sur le cœur, mais le patron, lui, plus sombre et plus noir que l'Apollon d'Homère, lorsqu'il décoche ses traits sur l'armée des Grecs, son bonnet, une fois plus renfoncé que de coutume, se promenait en long et en large, le poing sous le menton.